Chapitre 14. Dans une chambre douillette du Majestic, Edwards prêtait une oreille déférente à Sir Henry Clithering.
« Il y a certaines questions que j'aimerais vous poser, Edwards. Mais je tiens d'abord à bien vous préciser mon rôle dans cette affaire. J'ai eu autrefois un poste clé à la tête de Scotland Yard. Je suis désormais à la retraite. » Votre maître m'a envoyé chercher sitôt après le drame. Il m'a instamment prié de consacrer ma compétence et mon expérience à la recherche de la vérité.
Sir Henry attendit. Edwards, qui le dévisageait de son regard clair et intelligent, inclina la tête.
« Tout à fait, monsieur. »
Ce dernier poursuivit d'une voix posée.
« Dans toute enquête policière, il y a toujours un certain nombre d'informations qui sont tues. Elles le sont pour diverses raisons. Parce qu'elles touchent à un scandale de famille, parce qu'on croit qu'elles n'ont aucun rapport avec le crime, parce qu'elles entraîneraient gêne ou tracas pour les personnes concernées.
« Tout à fait, monsieur, » répéta Edwards.
« Je pense, Edwards, que vous avez d'ores et déjà une perception claire des grandes lignes de l'affaire. La victime était sur le point de devenir la fille adoptive de Monsieur Jefferson. Deux personnes avaient de bonnes raisons de souhaiter que ce projet n'aboutisse pas. Ces deux personnes sont Monsieur Gaskell et Madame Jefferson. »
Une lueur passa dans les yeux du valet de chambre.
Puis-je demander s'ils font partie des suspects, monsieur? Ils ne sont pas menacés d'arrestation, si c'est ce que vous craignez. Mais la police a forcément des soupçons à leur égard. Il en sera ainsi jusqu'à la conclusion de l'affaire.
C'est pour eux une situation inconfortable.
Très inconfortable. Cependant, pour parvenir à la vérité, il nous faut être en possession de toutes les données du problème. Ainsi, les réactions, les paroles, les faits et gestes de Monsieur Jefferson et de la famille sont d'une importance capitale. Quels étaient leurs sentiments ? Quelle était leur attitude? Qu'ont-ils dit? Ce que j'attends de vous, Edwards, ce sont les informations d'ordre intime et confidentiel que vous êtes sans doute le seul à détenir. Vous connaissez les humeurs de votre maître. À les avoir observées, vous devez sûrement savoir ce qui les provoque. Ce n'est pas l'enquêteur qui vous demande cela, mais l'ami de Monsieur Jefferson. Ce qui signifie que, dans ce que vous me direz, tout ce que j'estime ne pas être en rapport avec l'affaire ne sera pas communiqué à la police. »
Il s'arrêta. Edwards répondit posément.
« Je comprends très bien, monsieur. Vous désirez que je vous parle en toute franchise, que je vous dise des choses que je ne devrais pas répéter et que, si je puis me permettre, vous refuseriez d'écouter en temps normal. »
« Vous êtes un garçon intelligent, Edwards. Vous avez parfaitement saisi. »
Le valet de chambre resta quelques instants silencieux, puis il se mit à parler.
« C'est vrai qu'après toutes ces années passées à son service, je connais bien Monsieur Jefferson, mais que je le vois aussi bien dans ses bas que dans ses hauts. Il m'arrive même parfois de me demander, monsieur, s'il est bon pour quiconque de combattre la fatalité comme Monsieur Jefferson l'a fait. » S'il avait pu de temps en temps se laisser aller, admettre son sort de locumène infirme et délaissé, eh bien, ça aurait peut-être mieux valu pour lui, en fin de compte. Mais il est trop fier pour ça. Mourir sur la brèche, telle est sa devise. Seulement, ce genre d'attitude, Sir Henry, entraîne un déséquilibre nerveux. Aux yeux de tous, il paraît doté d'un heureux caractère. Pourtant, je l'ai vu entrer dans des rages telles il ne pouvait pratiquement plus articuler un mot. Et s'il est une chose qui avait le don de le mettre en colère, monsieur, c'était la malhonnêteté. C'était qu'on le déçoive.
Avez-vous une raison particulière de dire cela, Edwards?
Oui, monsieur. Vous m'avez demandé de parler en toute franchise, n'est-ce pas?
Absolument.
Eh bien, à mon avis, Sir Henry, la jeune femme pour laquelle M. Jefferson s'était tellement pris d'affection n'en valait pas la peine. C'était pour dire les choses crûment, une moins que rien. M. Jefferson, elle s'en fichait comme d'une guigne. Toutes ces démonstrations de tendresse et de gratitude, ce n'étaient que des simagrées. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle y mettait de la malice, mais elle ne correspondait pas, et de loin, à ce que s'imaginait M. Jefferson. Cela m'étonnait d'ailleurs de lui, car il n'est pas né de la dernière pluie et ne se laisse pas souvent berner. Seulement, lorsqu'il s'agit d'une personne du sexe opposé, un homme perd souvent tout jugement. Sa bru, Madame Jefferson, auprès de qui il trouvait toujours réconfort et sympathie, avait beaucoup changé cet été. Il s'en était aperçu et en souffrait. Il l'aimait beaucoup, voyez-vous. Pas comme Monsieur Mark.
Il le gardait pourtant toujours auprès de lui, fit observer Sir Henry.
Oui, mais en souvenir de Mademoiselle Rosamund. De Madame Gaskell, devrais-je dire. Il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Il l'adorait. Monsieur Mark était le mari de Mademoiselle Rosamund. C'est sans doute la seule vertu qu'il lui trouvait.
Et si Monsieur Mark s'était remarié,
Monsieur Jefferson aurait été furieux.
Les sourcils de Sir Henry s'élevèrent.
À ce point?
Il ne l'aurait pas montré. Mais il n'en aurait pas été moins furieux pour autant.
Et si c'était Madame Jefferson qui s'était remariée?
Monsieur Jefferson n'aurait pas apprécié non plus, monsieur.
Fort bien, Edwards. Continuez, je vous prie.
Je vous disais, monsieur, que Monsieur Jefferson s'était entiché de cette jeune personne. J'ai vu plus d'une fois le cas se produire chez divers messieurs que j'ai servis. Ça leur vient comme une sorte de maladie. Ils se sentent l'âme protectrice. Ils veulent prendre la fille sous leur aile, ils la comblent de bienfaits. Alors que 9 fois sur 10, elle est parfaitement capable de mener sa barque et ne fait que viser le gros lot.
Vous estimez donc que Ruby Keene était une intrigante?
Vu son âge, elle manquait encore d'expérience, Sir Henry. Mais elle en avait l'étoffe. Et une fois dans le bain, si je puis me permettre une telle expression, elle aurait eu toutes les qualités pour réussir. Encore 5 ans, et elle serait devenue experte à ce petit jeu.
Je suis heureux de connaître votre opinion. Elle me sera précieuse. Maintenant, vous rappelez-vous un quelconque accrochage à son sujet entre M. Jefferson et sa famille?
Il n'y a guère eu de discussion, monsieur. M. Jefferson s'est contenté d'annoncer ses intentions et d'étouffer toute velléité de protestation. À savoir qu'il a fait taire M. Mark, qui ne mâche jamais ses mots. Madame Jefferson, qui est une personne réservée, s'est bornée à lui recommander de ne pas prendre de décision hâtive.
Sir Henry hocha la tête.
« Bon. Quoi d'autre? Quelle était l'attitude de la fille ?»
Le valet de chambre afficha une expression de dégoût prononcé.
« Je la qualifierais de jubilatoire, monsieur. »«
Jubilatoire, dites-vous? Et vous n'avez aucune raison de penser que... »
Il chercha une expression convenable pour Edwards.
« Que... ses affections étaient engagées ailleurs. »
Monsieur Jefferson ne lui offrait pas le mariage, monsieur. Il se proposait de l'adopter.
Oublions le « ailleurs » et reprenons la question.
Il y a bien eu une fois un incident, monsieur. J'en ai été témoin par hasard.
Voilà qui est intéressant. Racontez.
Ça n'a peut-être aucune importance. C'est juste qu'un jour, en ouvrant son sac, la jeune personne a fait tomber une petite photo. Monsieur Jefferson s'est précipité dessus et lui a demandé « Eh bien, dis-moi, mon petit cœur, qui est-ce » C'était le portrait d'un jeune homme, monsieur. Un jeune homme brun, aux cheveux en désordre et à la cravate de travers. Mademoiselle Keene a prétendu qu'elle n'en savait rien. Alors là, Jeff, mon chou, je ne vois pas, vraiment pas. Je me demande comment cette photo a pu atterrir dans mon sac. Ce n'est en tout cas pas moi qui l'y ai mise. Seulement, monsieur Jefferson n'est pas fou, monsieur. Il n'a pas gobé cette histoire. Il l'a sermonné. Allons, mon petit cœur, allons, tu sais très bien de qui il s'agit. Elle a tout de suite changé de tactique. Elle a pris un air de chien battu. Ah, je le reconnais maintenant. Il vient ici de temps en temps et j'ai dansé avec lui. Je ne sais pas comment il s'appelle. Cet idiot a dû fourrer sa photo dans mon sac. Ces garçons sont bêtes à manger du foin. Elle a pouffé de rire en secouant la tête et elle est passée à autre chose. Mais ce n'était pas très plausible, n'est-ce pas? Et je ne pense pas que M. Jefferson soit tombé dans le panneau. Après cela, il lui arrivait parfois de lui lancer des regards sévères. Et si elle était sortie, de lui demander où elle était allée.
« Avez-vous jamais vu le jeune homme de la photo à l'hôtel ?» demanda Sir Henry.
« Non, monsieur. Il est vrai que je ne descends pas souvent dans les salons. »
Sir Henry acquiesça de la tête. Il posa encore quelques questions, mais Edwards ne put rien lui apprendre de plus. Au poste de police de Deignmouth, le superintendant Harper était en train d'interroger successivement Jesse Davis, Florence Small, Béatrice Henniker, Mary Price et Lillian Ridgway. Si elles avaient à peu près le même âge, leur mentalité différait quelque peu. Elles allaient de la fille de riche propriétaire terrien à celle de fermier ou de commerçant. Toutes, sans exception, racontèrent la même histoire. Pamela Reeves s'était comportée comme d'habitude. Elle n'avait rien dit de spécial à personne, si ce n'est qu'elle allait au Woolworths et qu'elle rentrerait chez elle en bus un peu plus tard. Dans un coin du bureau était assise une personne âgée. Les filles l'avaient à peine remarquée, sinon elles auraient pu se demander de qui il s'agissait. Certainement pas d'une auxiliaire de la police en tout cas. Peut-être d'un témoin comme elle qui attendait d'être interrogé. La dernière des filles fut accompagnée hors de la pièce. Le superintendant Harper s'épongea le front et se tourna vers Miss Marple. Son regard était interrogateur, mais sans illusion. Miss Marple décréta pourtant d'un ton sans réplique « J'aimerais parler à Florence Small. » Le superintendant arqua les sourcils, mais hocha la tête et pressa sur un bouton. Un agent entra. « Florence Small. » annonça Harper. Cette dernière reparut, escortée par l'agent. C'était la fille d'un riche fermier, une grande adolescente aux cheveux blonds, à la bouche un peu niaise et aux yeux marrons apeurés. Elle se tordait les mains et semblait morte de trac. Le superintendant consulta Miss Marple du regard. Cette dernière ayant acquiescé d'un signe de tête, il se leva et dit « Cette dame va vous poser quelques questions. » Sur quoi il sortit en refermant la porte derrière lui. Florence jeta un œil craintif en direction de Miss Marple. Un œil qui ressemblait fort à celui des veaux de son père. « Assieds-toi, Florence, » dit Miss Marple. Florence s'exécuta. Sans savoir pourquoi, elle se sentait soudain plus à son aise. L'atmosphère, nouvelle pour elle et d'autant plus terrifiante du poste de police, s'estompait devant ce qui lui était plus familier, le ton impérieux d'une personne habituée à se faire obéir. « Est-ce que tu te rends compte, Florence, qu'il est capital que nous soyons au courant des moindres faits et gestes de cette pauvre Pamela le jour de sa mort ?» Florence murmura que oui. Et je suis sûre que tu veux faire tout ce que tu peux pour nous aider. » Elle confirma de nouveau, avec une lueur de méfiance dans le regard. « Garder pour soi un renseignement est un délit très grave, » prévint Miss Marple. Les doigts de la fille se tordirent de plus belle sur ses genoux. Elle déglutit plusieurs fois. « Je comprends parfaitement, » poursuivit Miss Marple, que cela t'intimide de te trouver confrontée à la police. Tu as peur aussi qu'on te reproche de ne pas avoir parlé plus tôt. Peut-être même de ne pas avoir tenté d'infléchir la décision de Pamela. Mais tu dois te montrer courageuse et décharger ta conscience. Si tu refuses de dire maintenant ce que tu sais, tu te mettras dans une situation délicate. Ce sera vraiment grave. Très grave. Presque du faux témoignage. Ce qui, je ne t'apprends rien, peut te mener tout droit en prison.
Je ne...
Allons, pas de dérobade, Florence. Dis-moi la vérité à présent. Pamela n'allait pas chez Woolworths, n'est-ce pas?
Florence passa la langue toute sèche sur ses lèvres et jeta un regard implorant, comme un animal prêt à passer à l'abattoir.
Ça n'aurait pas un rapport avec le cinéma ? Demanda Miss Marple. Une expression d'intense soulagement, en même temps que d'admiration, passa sur le visage de Florence. Ses inhibitions la quittèrent. « Si !» s'écria-t-elle. « Il me semblait bien. Maintenant, tous les détails, s'il te plaît. » Un flot de paroles jaillit de la bouche de Florence.
« Mon Dieu, je me faisais tellement de mauvais sang. Vous comprenez, j'avais promis à Pam de ne rien dire à personne. Et puis quand on l'a retrouvée brûlée dans cette voiture, j'ai eu l'impression que c'était ma faute. J'aurais dû l'empêcher d'aller là-bas. Seulement sur le moment, je n'avais pas vu de mal à ça. Et quand on m'a demandé si elle était comme d'habitude ce jour-là, j'ai répondu oui, sans réfléchir. Ce qui fait qu'après, je ne pouvais plus dire le contraire. D'autant que je ne savais pas grand-chose, moi. Juste ce que Pamela m'avait dit.
Qu'est-ce qu'elle t'avait dit ?
C'était en marchant vers l'arrêt de bus pour aller au rassemblement. Elle m'avait demandé si j'étais capable de garder un secret. Alors j'avais dit oui, et elle m'avait fait jurer de me taire. Elle allait tourner un bout d'essai à Denmouth après le rassemblement. Elle avait rencontré un producteur de cinéma qui rentrait tout juste de Hollywood. Il cherchait un certain type de fille et il avait dit à Pam qu'elle correspondait exactement à ce qu'il voulait. Il l'avait quand même bien prévenu de ne pas se monter la tête. « On ne peut jamais savoir, lui avait-il dit, si une personne est photogénique ou pas. Parfois, c'est une vraie catastrophe. » C'était un rôle qui exigeait quelqu'un de très jeune, celui d'une petite étudiante qui prend la place d'une artiste de musical et qui voit une carrière magnifique s'ouvrir à elle. Pam avait déjà joué des pièces à l'école et elle était rudement bonne. Il a dit qu'il voyait bien qu'elle avait de la technique, mais qu'elle devrait en même temps beaucoup travailler. Ça ne serait pas une partie de plaisir, il y aurait des moments sacrément difficiles. Est-ce qu'elle se sentait capable de tenir le coup ?
Florence Small s'interrompit pour reprendre son souffle. Rien qu'à écouter cette sirupeuse ressucée de mille et un feuilletons et d'autant de films à l'eau de rose, Miss Marple se sentait prise de nausées. Comme à la plupart des filles de son âge, on avait sûrement recommandé à Pamela de ne jamais parler à des inconnus. Mais l'attrait mirobolant du cinéma avait dû le lui faire oublier.
Et puis ce n'était pas du baratin. Il ne prenait pas les choses à la légère, poursuivit Florence. Il lui avait dit que si l'essai était concluant, on lui ferait un contrat, mais que, comme elle était jeune et dépourvue d'expérience, elle aurait intérêt à le montrer à un homme de loi avant de le signer. Seulement, ce conseil-là, il ne s'agirait pas qu'elle aille répéter que c'était lui qui le lui avait donné. Il lui avait demandé si les choses risquaient de mal se passer avec ses parents, et Pam avait répondu que oui. Alors il avait dit « Bien sûr, c'est toujours le problème quand on est aussi jeune que toi, mais je crois que si on leur explique qu'une chance pareille, ça n'arrive pas à une fille sur un million, ils finiront par voir le bon côté de la situation. Et puis d'ailleurs, ce n'était pas la peine de discuter de ça avant d'avoir le résultat du bout d'essai. Il ne fallait pas qu'elle soit déçue si c'était négatif. » Il lui avait parlé de Hollywood, de Vivian Leigh, de son succès foudroyant à Londres, et puis de comment ça pouvait vous arriver, d'être emporté soudain sur les ailes de la gloire. Lui-même, il était revenu d'Amérique pour travailler au studio Lemville et redonner un peu de tonus aux compagnies anglaises.
Miss Marple hocha la tête.
Le marché était donc conclu, continua Florence. Pam devait aller à Denmouth après le rassemblement et le rejoindre à son hôtel. De là, il l'emmènerait au studio. Il lui avait dit qu'ils en avaient un petit à Denmouth pour les essais. Après le test, elle pourrait rentrer chez elle en bus et dire qu'elle était allée faire du lèche-vitrine. Le résultat, il le lui ferait connaître au bout de quelques jours. Et s'il était positif, Monsieur Armstiter, le grand patron, irait discuter avec ses parents. Ça avait l'air formidable. J'étais verte de jalousie. On avait toujours dit à Pam qu'elle était une bonne actrice. Eh bien, on n'avait pas tort. Elle a participé au rassemblement comme si de rien n'était. À la fin, quand elle a prétendu qu'elle allait à Woolworth's de Denmouth, elle m'a juste fait un clin d'œil. Je l'ai vue s'éloigner sur le sentier.
Elle se mit à sangloter.
J'aurais dû lui courir après. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. J'aurais dû en parler à quelqu'un. Oh mon Dieu, je voudrais être morte.
Allons, allons, fit Miss Marple en lui tapotant l'épaule. Calme-toi, personne ne te dira rien.
Tu
tu as bien fait de soulager ta conscience. » Elle consacra un moment à consoler l'adolescente. 5 minutes plus tard, elle racontait toute l'histoire au superintendant Harper. « Le fichu salopard !» gronda celui-ci d'un air menaçant. « Je vais lui régler son compte, moi !» En tout cas, voilà qui donne à l'affaire un tour bien différent. « Je ne vous le fais pas dire. » Harper lui jeta un regard oblique. « Ça n'a pas l'air de vous surprendre. Je m'attendais à quelque chose dans cet esprit-là. Qu'est-ce qui vous a aiguillé sur cette fille-là et pas sur une autre ? Elles avaient toutes l'air terrorisées et je n'ai pas vu l'ombre d'une différence entre elles. « Vous n'avez pas mon expérience des menteuses en herbe, » répliqua Miss Marple indulgente. Florence vous regardait bien dans les yeux, rappelez-vous. Se tenait droite comme un i. Et tout ce qu'elle osait faire, c'était passer d'un pied sur l'autre comme ses camarades. Mais vous ne l'avez pas observée au moment où elle sortait. Moi, j'ai compris tout de suite qu'elle cachait quelque chose. Elle se laisse presque toujours aller trop tôt. C'était le cas de ma petite bonne, Janet. Elle vous expliquait de manière très convaincante que c'était les souris qui avaient mangé le restant d'un gâteau. Et puis elle se trahissait par son sourire en coin au moment de quitter la pièce. « Je vous suis infiniment reconnaissant de votre aide, » dit Harper. Puis il ajouta songeur, « Les studios l'aiment vil, hein ?» Miss Marple ne répondit pas. Elle se leva. « Je dois vous quitter sans plus tarder, » s'excusa-t-elle. « Je suis en tout cas ravie d'avoir pu vous être utile. » « Vous retournez à l'hôtel ?»«
Oui, pour boucler ma valise. Il faut que je regagne Sainte-Marie-Mide dans les plus brefs délais. J'ai beaucoup à faire là-bas. »